BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Benjamin Morel, rebonjour. Merci d'être avec nous, politologue, donc je disais, maître de conférence en droit public à Paris 2, Panthéon Assas. Benjamin Morel, donc il y a passation de pouvoir en ce moment, on le voit bien, il y a même en ce moment même celle qui fait le plus gloser, c'est celle de Nicole Belloubet à Dupond-Moretti. Est-ce que ce gouvernement, il est de quoi est-il le nom ?
Il est le nom de deux choses, je dirais. D'abord, d'une forme de continuité qui a pour objectif l'opérationnalité rapide. Il ne faut pas oublier qu'à partir du mois de septembre jusqu'au mois de janvier 2022, où il n'y aura plus vraiment de temps, il y a 15 mois d'agenda parlementaire effectif. Les choses vont aller très vite et, vous le savez mieux ici qu'ailleurs, on va qui plus est avoir une crise économique à gérer qui va être violente et qui va être accompagnée d'une crise sociale. On n'a pas le temps d'acclimater de nouveaux profils. Donc, il faut aller vite, d'où la continuité dans les ministères et d'où le fait qu'en fait, la majeure partie des ministres importants du précédent gouvernement sont restés et sont restés en poste. Donc l'opérationnalité, qui est masquée par deux arrivées un peu tonitruantes, en effet Éric Dupond-Moretti et peut-être également Roselyne Bachelot. Donc ça, c'est le premier pilier. Ensuite, il y a des messages électoraux qui sont passés. Très clairement, on a vu que l'électorat LREM et que l'électorat proche de LR pouvaient être fondamentalement désarçonnés par le départ d'Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre était extrêmement populaire dans cet électorat-là. Or, cet électorat-là, c'est la poule aux œufs d'or en politique, en réalité. Il est composé majoritairement de CSP+, et surtout de retraités qui votent à toutes les élections intermédiaires. Si on veut bien comprendre la séquence, il faut voir que les départementales et les régionales sont visiblement maintenues. Emmanuel Macron l'a confirmé hier, avant-hier, à Gérard Larcher. Donc, très clairement, on va avoir, à un an des présidentielles, des élections intermédiaires importantes, avec probablement une abstention record, mais cet électorat-là qui se déplacera aux urnes parce qu'il se déplace tout le temps aux élections intermédiaires. Donc, il fallait lui envoyer des signaux. Très clairement, l'ancrage plutôt à droite de ce gouvernement est un signal fort qui lui est envoyé.
Oui, en même temps, je pose la première partie de votre raisonnement, je ne suis pas complètement d'accord dans le sens où c'est vrai qu'il n'y a pas autant de changements qu'on aurait pu anticiper. Mais il y en a quand même. D'accord, il y a Bruno Le Maire avec un ministère élargi. Il récupère le budget, pas la première fois, mais là au moins il l'a. Mais il y a le travail où il y a eu quand même très grosses réformes, que ce soit sur l'apprentissage et la réforme de l'assurance chômage aussi qui est un peu dans les tuyaux, la réforme des retraites qui est à cheval entre différents ministères. Donc là on voit sur tout cet aspect-là qui est très important avec le chômage qui est en train d'exploser. Elle part.
Là, il y a des changements et il y a probablement également une volonté de gérer ça beaucoup plus près de la tête de l'État. Donc très clairement, que Jean Castex assume ce rôle-là et qu'au sein même du cabinet de Jean Castex, parce qu'il faut bien voir comment sont composés les cabinets, il y a de vraies évolutions depuis l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron. On a vu notamment des conseillers partagés entre Matignon et l'Élysée, ce qu'on n'avait jamais vu. On a vu qu'Emmanuel Macron avait nommé les directeurs de cabinet de quasiment tous ses ministres indirectement, sauf Édouard Philippe qui le refusait, le DIRCAB de Jean Castex.
Le fameux Benoît Rémadeau-Dumas.
Et là, le nouveau DIRCAB de Jean Castex, également son chef de cabinet, viennent de l'Élysée et sont des proches d'Emmanuel Macron. On sait que Nicolas Revel, sur ces questions sociales, est quelqu'un à la fois de compétent, de proche de la vision du chef de l'État. Donc là, très clairement, ces questions qui, comme vous le disiez, sont essentielles en fin de quinquennat et vont être essentielles dans les mois futurs, vont être gérées au plus haut niveau.
Oui, Nicolas Revel qui était assis à ce même micro là où vous êtes il y a encore quelques jours. Mais justement, sur les défis de l'assurance maladie, le défi des déficits sociaux, parce qu'on voit que tous les compteurs sont en rouge sombre. Ça veut dire quelque part que là, il s'expose en première ligne, Emmanuel Macron. Enfin, il l'était déjà, mais c'est vrai qu'Edouard Philippe avait pris quand même, j'ose pas dire le mot ascendant, ça serait irrespectueux. Enfin, il avait pris quand même une part assez prépondérante dans l'action du gouvernement. Là, il est en première ligne.
Donc
ça passe ou ça cave. C'est presque un quitou double, non, d'Emmanuel Macron.
C'est une forme de quitou double, mais Emmanuel Macron a enregistré quelque chose qui est qu'il y a une forme, non pas de disparition du Premier ministre depuis le quinquennat, mais une forme d'inversion des rôles. Quand vous prenez les structures de la popularité d'Édouard Philippe ces derniers mois, ou la structure de la popularité de François Fillon quand il était Premier ministre, vous voyez que c'est plus les structures de popularité d'un Mitterrand ou d'un Chirac jadis. C'est-à-dire une forme de distance vis-à-vis de l'action, d'image de chef de l'État, qui semble s'incarner dans un Premier ministre qui est vu comme impotent, mais qui est vu un peu comme la mouche du coche. Là, très clairement, le président depuis le quinquennat apparaît comme celui à qui sont imputés rarement les succès, mais toujours, en revanche, les échecs. Donc, pour Emmanuel Macron, il y a cette volonté de renouer avec une forme d'hyper-présidence en disant, certes, je suis comptable des échecs, mais je veux également être comptable des succès. Il n'est pas certain qu'en pleine crise sociale, ce soit forcément à son avantage. En tout cas, c'est un risque qu'il prend.
En même temps, en vous écoutant, il y a un point quand même, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, Benjamin Morel, pardon, si je vous choque. C'est, en fait, lorsque le président Macron, on dit qu'il voulait prendre de la hauteur pour montrer qu'il était président, il avait besoin de se présidentialiser. Il y a eu la pyramide du Louvre, il fait référence effectivement au grand président. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est pour ça aussi qu'il a été élu par des Français. C'est quelqu'un qui a 40 ans, il n'a pas l'âge d'un François Mitterrand lorsque lui était président de la République. Donc, est-ce qu'il n'a pas commis une erreur finalement? On attendait plus de l'action de la part de ce président. Ou alors, au contraire, vous qui êtes politologue, c'est pas dans nos institutions.
Depuis le quinquennat, en réalité, on a des présidents qui se cherchent. C'est pas nouveau. On a eu Jacques Chirac, mais qui était une forme de continuité de, je dirais, l'ancien monde pré-quinquennat, avec une sorte, justement, d'aura au-dessus des partis, qui plus est marquée par sa réélection. Mais Jacques Chirac n'était pas aussi populaire en fin de mandat. Il faut jamais l'oublier.
Donc, taux de popularité extrêmement bas.
C'est ça. Depuis, on a eu Nicolas Sarkozy qui a cherché, justement, à manger Matignon. On a eu François Hollande qui s'est construit en contre-image de Nicolas Sarkozy, mais on a vu que la présidence normale ne fonctionnait pas non plus. Emmanuel Macron est en recherche aujourd'hui de cette posture qui serait la bonne posture. La réalité, c'est que si vous conjuguez les effets du quinquennat, les effets des réseaux sociaux, les effets d'une hyper-information liée également aux chaînes d'information en continu, à une beaucoup plus grande information de l'opinion à l'instant T, il est aujourd'hui extrêmement difficile de camper la position d'un François Mitterrand, d'un général de Gaulle ou même d'un Jacques Chirac. On est vraiment dans un nouveau temps politique, et ce nouveau temps politique aujourd'hui, pour le président de la République fonction, je ne parle pas du président actuel ou des précédents, pour cette fonction de président de la République, ça devient extrêmement difficile à gérer. Pour l'instant, eh bien, il n'y a pas le bon mode d'emploi, n'existe pas.
Là, vous pensez qu'il va continuer les réformes qu'il doit faire, parce que la réforme des retraites, ça on le sait, donc Jean Castex l'a précisé dès son interview au Journal du Dimanche en disant ça va être dans les prochaines semaines. Le Ségur de la santé, ça doit être tranché d'ici quelques heures. La réforme de l'assurance chômage, les autres réformes en cours. Il s'est donné les moyens de tout conduire, Emmanuel Macron ?
Ça va être extrêmement compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, de septembre à janvier 2022, il y a 15 mois effectifs. Voire un peu moins, même s'il faut, parce qu'il faudra bien un jour rénover l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ouais. Donc tout ça fait qu'on va avoir un temps politique extrêmement contracté, avec un projet de loi de finances rectificative, crise économique oblige, probablement tous les deux mois. Quand on regarde aujourd'hui ce qui est prévu par le gouvernement...
Oui, qui devait être voté vendredi, et puis en fait qu'il ne le sera pas à cause du changement, bien sûr.
Et on en aura un autre en septembre, c'est déjà annoncé. Donc vous voyez, on va en avoir beaucoup, beaucoup. Ça va manger du temps parlementaire. Or, il y a extrêmement peu de temps, et quand on regarde aujourd'hui ce qui est prévu, tous les textes pré-confinement sont encore sur la table. On parlait de la loi 3D sur la décentralisation, on peut parler de la réforme des retraites, etc. Conjugué au plan de relance, conjugué au nouveau texte Ségur de la santé, tout ça fait énormément de textes. Il va falloir prioriser. Pour l'instant, les priorités ne sont peut-être pas assez clairement définies. Donc, pour toutes ces raisons-là, on peut penser que les prochains mois vont encore être assez chaotiques du point de vue des objectifs et des textes.
Attendons peut-être l'intervention du président de la République le 14 juillet, et puis le discours bien sûr de Petit Général, qui viendra après. Jean Castex a appris qui finalement était le chef. Vous disiez tout à l'heure quelque chose de très intéressant, en disant ceux qui votent aujourd'hui aux élections, évidemment c'est plutôt des retraités ou des gens de droite. Donc c'est pour ça qu'il a choisi clairement plutôt des gens de droite.
Alors ceux qui votent aux élections, c'est ce qu'on appelle l'arc centriste, c'est-à-dire ce sont en effet plutôt des retraités qui votent au centre droit et certaines parties des CSP+, qui votent plutôt social-démocrate ou aujourd'hui Europe Écologie Les Verts. Emmanuel Macron a acté que pour reconquérir cet électorat de centre-gauche votant plutôt social-démocrate ouvert, c'est aujourd'hui très compliqué. Entre lui et cet électorat, il n'y a pas que la question de l'écologie, il y a également la question des libertés publiques. C'est un électorat qui était assez heurté par la loi Avia, par la loi anticasseur. Il y a également la question sociale avec la réforme des retraites. Reconquérir cet électorat aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour lui. L'électorat de centre-droit lui est beaucoup plus acquis. C'est un électorat mobilisable et c'est un électorat qui peut se mobiliser pour lui à la fois contre Marine Le Pen, mais éventuellement également contre une candidature d'Union de la gauche. Est-ce que cet électorat est suffisant pour emporter les élections intermédiaires? C'est loin d'être évident, parce que c'est un électorat dont on a vu qu'il rentrait au bercail, notamment aux législatives, aux municipales, c'est-à-dire qu'il revotait à droite. Et c'est un électorat qui, certes, peut éventuellement, s'il est uni, être suffisant pour gagner une élection intermédiaire, mais n'est pas suffisant pour gagner une présidentielle. Il va falloir élargir cette base. Pour élargir cette base, eh bien, il n'y a plus qu'un an et demi. C'est ça l'une des difficultés aujourd'hui d'Emmanuel Macron.
Pendant que nous nous exprimons, il y a Éric Dupond-Moretti qui prononce son premier discours en tant que garde des Sceaux, du barreau au garde des Sceaux. C'est, pour vous, ça veut dire quoi?
Il y a probablement...
Ça va être le feu à la maison, vous pensez?
Alors, il y a probablement, pour Emmanuel Macron, la volonté de faire un coup. Et également de masquer une forme de permanence. Voilà, c'est-à-dire qu'encore une fois, on a une permanence. Donc, pour être disruptif, quand on garde à peu près les mêmes ministres, c'est compliqué. Dupond-Moretti, clairement, c'est disruptif. Ça, c'est évident. Oui. Le grand danger, c'est évidemment, au vu de la réputation... C'est loin d'être la première fois, on a entendu ça ces dernières heures, ce serait la première fois qu'un avocat devient garde des Sceaux, c'est pas vrai du tout.
C'est complètement faux, voilà. Ça c'est des gens qui n'ont pas de culture.
Ne serait-ce que Robert Badinter.
Non, on peut oublier Robert Badinter.
Donc
quand même.
On a eu beaucoup d'avocats qui ont été garde des Sceaux ces dernières années, c'est pas une nouveauté. En revanche, il est vrai que c'est pas n'importe quel avocat. Il est vrai que c'est un avocat...
Il a un parcours incroyable.
Il a un parcours incroyable et il s'est souvent opposé aux magistrats.
Il y a encore 10 jours... Chez certains de nos confrères.
Voilà,
si j'étais garde des Sceaux, voilà ce que je ferais.
Voilà.
Ça décoiffait comme mesure.
Donc, ça décoiffe et très clairement, c'est un signal. Un peu, le principal syndicat des magistrats a parlé de déclaration de guerre.
Ouais.
Donc on voit très clairement que ça crée une tension. Ce qui peut poser question, c'est que Christophe Castaner est parti pour justement s'être heurté aux policiers. Aujourd'hui, on a un nouveau garde des Sceaux dont la nomination même met en rage les magistrats.
Ouais.
Comment est-ce que ça va être géré? Comment arriver à tenir un ministère comme le ministère de la Justice, qui plus est, sans avoir l'aval ou au moins le soutien tacite d'une grande partie de la profession? C'est probablement très compliqué et c'est un coup de com'. C'est peut-être un coup également en termes de politique, avec une volonté de montrer que les différents errements de la justice qui ont pu être pointés ces dernières semaines sont pris en compte par le président. Et ça peut être un coup de com' qui va se payer très cher.
Et c'est peut-être un chiffon rouge, en tous les cas, devant des magistrats, où il y a quand même pas mal d'affaires en cours. Hein. Juste une dernière question, très rapidement. Gérald Darmanin, qui arrache au dernier moment, ça ne devait pas être lui, qui a dû faire le forcing, le poste de ministre de l'Intérieur, comme Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que ça y est, il est sur sa rampe de lancement, Gérald Darmanin?
Alors, il n'est peut-être pas sur une rampe de lancement présidentielle. Hein. C'est beaucoup ce qu'on dit depuis hier. Il faut peut-être raison garder.
Il a 37 ans.
Il a 37 ans, il est jeune. Et Emmanuel Macron n'était pas si vieux que ça quand il a lancé sa campagne. Mais aujourd'hui, très clairement, on n'en est pas là. En revanche, il est certain qu'on a une dynamique ascendante et qu'on a une dynamique ascendante, encore une fois, du personnel politique au sein de La République En Marche, qui est le personnel politique de droite. Ce qui marque bien, en fait, où ont été cherchées les compétences par Emmanuel Macron et aujourd'hui, l'une des formes de déséquilibre de ce gouvernement qui, à terme, encore une fois, peut poser problème dans l'électorat.
Merci beaucoup, Benjamin Morel. On vous libère, politologue, qui nous a un peu décrypté les risques de ce nouveau gouvernement. On verra si vous avez raison. Dans un instant, on change complètement de sujet. C'est Damien Verdier, le nouveau président du groupement des professions de services, qui disent il y a un ministre de l'Industrie, une ministre en l'occurrence. Pourquoi il n'y a pas un ministre des Services, qui est sans doute le premier secteur économique en France? À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, il vient d'être nommé à la tête du groupement des professions de services, Damien Verdier. Damien Verdier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, élu au mois de mai, dans un moment un peu difficile, parce qu'évidemment, les professions de services ont été en première ligne dans la gestion de cette crise de la Covid. Juste un mot pour ceux qui n'ont pas forcément ça en mémoire, GPS, comme on dit, Groupement des professions de services, vous représentez 24 fédérations, mais vous faites des choses extrêmement hétéroclites dedans.
Oui, parce que le monde des services est très divers.
Oui.
Hein, il va des services à la personne, en passant des services opérationnels, des services financiers. Mais tout ce monde-là a quand même quelques points communs. C'est d'abord que ce sont toutes des entreprises où le premier capital, sont les hommes et les femmes. C'est le premier poste dans nos comptes d'exploitation, c'est la masse salariale.
Oui, vous produisez rien.
Alors, on produit des services.
Oui, vous ne produisez pas une voiture.
On n'a pas de stock. On apporte des services tous les jours à la population, aux entreprises, aux collectivités. C'est quelque chose qui est un business model assez particulier, avec des équipes souvent très réparties dans les territoires, souvent même d'ailleurs logées chez les clients eux-mêmes, et qui est une économie qui s'est développée depuis 20 ans de façon très conséquente.
Oui, bien sûr, on dit que c'est la première économie en France, hein, en tous les cas. Justement, que la France est devenue une économie de service, certains disent trop, et qu'il faut que l'industrie retrouve un tout petit peu sa place. Vous allez d'où à d'où, votre fédération de services? Parce que vous allez de soignants en passant, en allant jusqu'au...
Oui, on va des services à la personne jusqu'à des services numériques qui vont accompagner toute la transformation numérique des entreprises avec beaucoup, beaucoup de nouveaux talents, nouveaux diplômés. Donc voilà, on est à la fois dans la transformation numérique, on est dans, bien entendu, la responsabilité sociale en tant que gros employeur, et on est aussi des experts souvent dans les problèmes de transition écologique. Ouais. Donc on a un spectre effectivement assez large.
10 millions d'emplois en tous les cas. Alors vous êtes là parce que vous venez d'être nommé, donc merci d'être là. Et puis vous avez piqué un petit coup de gueule en disant, dans une tribune, en disant, écoutez, ça suffit, en fait, on a toujours fait du low cost en France, et du coup ça se répercute sur l'offre de services. Juste une question d'abord, il y a une ministre de l'Industrie, il n'y a pas de ministre des Services, vous le regrettez? C'est qui votre interlocuteur?
Eh bien, j'aimerais bien le savoir.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Écoutez, c'est clair que notre souhait, ce n'est pas du tout de combattre le fait qu'il faut un ministère de l'Industrie. L'industrie a d'énormes enjeux dans ce pays, et si ça se réindustrialise, ce sera bon pour les services. Donc le sujet n'est pas là. Le sujet est que nous représentons 50% du PIB, on a des enjeux d'emploi majeurs après cette crise à traiter, on a des problèmes de transformation de nos entreprises, on peut prendre un leadership en Europe parce qu'on est effectivement une économie qui s'est bien développée sur le monde des services, et on n'a jamais d'interlocuteur. Mmh. Donc on va appeler le Premier ministre à nous préciser qui est notre interlocuteur dans ce gouvernement, parce que nos entreprises vont avoir des problèmes à traiter dans les mois qui viennent, qui méritent qu'on ait quelqu'un dans ce gouvernement qui, le matin, pense économie de service, 50% du PIB, 10 millions d'emplois, premier contributeur à la création nette d'emplois dans ce pays. Je rappelle juste, depuis 2017, 740 000 emplois créés nets en France, qui était une vraie avancée. 75% viennent des services. Donc de toute façon, dans ce problématique de la relance et de l'emploi, les services vont être absolument majeurs.
Il y aura pas de problème. Mais en même temps, parce que vous dépendez de tout, vous-même vous l'avez souligné, c'est-à-dire que service à la personne, ça peut dépendre d'Olivier Véran à la santé. Vous avez service aux entreprises, bah, évidemment ça dépend de l'industrie ou ça dépend de Bruno Le Maire. Vous voyez.
Alors les services aux entreprises.
Vous êtes comme un couteau suisse quelque part.
Alors c'est un peu vrai, mais encore une fois, il y a un certain nombre d'éléments majeurs qui caractérisent pour parler français, nos business models, et qui méritent de les comprendre, et qui méritent surtout d'adresser un certain nombre de sujets clés qui vont être justement les problèmes de montée en gamme. Et quand je pousse un petit coup de gueule, c'est parce que, en fait, il faut comprendre que depuis 20 ans, le monde des services, comme d'autres pans de l'économie, ont été traités beaucoup sur le moins 10 ans. Donc on a fait du cost-killing, pour être clair. Beaucoup de pans entiers d'économie ont été soumis à ça.
Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que là, il y avait des chefs d'entreprise qui disaient, attendez, pour genre 10 euros sur un très gros budget, on préférait aller chercher quelqu'un qui était localisé à 2000 km, alors que nous, on était juste à côté de l'entreprise.
Alors nous, on a moins cette problématique-là, parce que la plupart de nos métiers ne sont pas délocalisables. Oui. Mais la question, c'est surtout que, si vous voulez, 20 ans de réduction des coûts, de jugement de nos offres uniquement sur le critère du moins 10 ans, il y a un moment donné, dans des entreprises pour lesquelles la masse salariale, encore une fois, est le premier pilier de son chiffre d'affaires, ça a un impact. Ça a un impact sur les investissements dans le capital humain, dans les formations professionnelles. On nous demande de jouer, et on le joue beaucoup, ce rôle d'ascenseur social. On nous demande d'être, bien entendu, accompagnateur de la transition écologique. On nous demande aussi de revisiter nos conditions d'emploi, nos grilles salariales. Et parce que, effectivement, le moment de la crise a été aussi évoqué.
Vous êtes un peu comme les sous-traitants, vous êtes un peu victime de grandes entreprises, c'est ça?
Non, parce que d'abord, les grandes entreprises, et notamment industrielles, c'est 13% de l'échange de services en France. La plupart de l'économie de services, c'est une économie maintenant qui se nourrit d'elle-même. Donc, bien entendu, il y a les donneurs d'ordre qui ont un rôle à jouer, mais il y a aussi le fait de... Et le problème n'est pas simple. Donc, c'est pour ça qu'on appelle à une conférence nationale sur ce sujet. Parce qu'on pense qu'il faut mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes, qui peuvent être les entreprises, qui doivent aussi penser comment mettre en valeur ce qu'elles font d'autre que juste proposer un coût. Et c'est un vrai enjeu de montrer qu'on contribue au-delà de la prestation qu'on offre.
Oui, mais j'ai envie de dire, Damien Verdier, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que vous augmentez pas les salaires? Pourquoi vous faites du low cost? Oui, je veux dire, puisque comme vous dites, c'est une économie circulaire. Donc, j'ai envie de dire, demander à l'entreprise qui travaille de service, qui est votre donneur d'ordre, bah, d'accepter de remonter vos tarifs, vos prix, votre grille salariale.
Mais ils ne font pas. Hein, c'est ça
le problème.
Ah oui,
mais ce sont des entreprises.
Et la commande publique
en premier. Du GPS, vous voyez.
La commande publique en premier, si vous voulez. Il y a quand même beaucoup de sujets qui ont été mis en exergue pendant cette crise. Ils étaient déjà latents avant, hein. Mais on trouve que c'est vraiment le moment de se poser la question de qu'est-ce que serait une économie de services vertueuse qui continue à contribuer à l'emploi, qui continue à être le premier recruteur, qui joue son rôle d'emploi peu diplômé, où on intègre des personnes, on les forme jusqu'à des emplois très diplômés dans le numérique et autres. Mmh. Et pour jouer ça, si le seul critère de jugement, la prestation, c'est le prix, c'est le moindre coût, il y a un moment donné, si vous voulez, au bout de 20 ans, il faut qu'on se pose les vraies questions. Ça ne veut pas dire de ne pas être compétitif, ça ne veut pas dire de ne pas réfléchir sur notre efficacité. Hein. Il y a aussi, encore une fois, les entreprises de services sont prêtes à se remettre en cause. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est le moment d'avoir ce débat public. Au cœur de ça, il y a quand même la commande publique, hein, avec des appels d'offres publics où 70% du critère, c'est le prix. Hein. Donc vous venez avec des innovations, des idées, pour faire autrement, faire autre chose, si vous n'êtes pas le moins 10 ans, de toute façon, vous avez perdu d'avance. Mmh. Il faut quand même qu'on repense tout ça.
Oui, il y a une vraie
ça.
Culture du low cost, mais j'ai envie de dire qui est pour les services, mais qu'on retrouve partout.
Oui.
J'ai des témoignages ici, Bertrand Camus, le patron de Suez, il disait qu'on avait des moyens, par exemple, d'éviter que le virus se retrouve dans les eaux usagées, etc., mais qu'il fallait mettre en place d'autres filtrations. Mais je lui dis, pourquoi vous ne le mettez pas, puisque c'est vous qui avez installé ces systèmes. Il dit, non, parce que c'est le donneur d'ordre public qui dit, non, ça coûte trop cher, on le fait pas.
Là, il y a beaucoup de rigidité dans les appels d'offres. Il n'y a pas beaucoup de place à l'initiative, à l'innovation, parce que vous risquez simplement de ne pas être dans les standards de ce qui a été demandé. Mais en plus, dans les services, c'est, encore une fois, c'est l'impact sur le fait qu'on ait des gros employeurs.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes? Parce que c'est un peu la grande question. On attend des mesures qui doivent être prises sur les jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'employeur de service et premier créateur net d'emploi? Et comme vous le disiez vous-même, je vous cite, Damien Verdier, vous êtes un ascenseur social.
Alors, on est prêts tous à s'engager sur ce problématique des jeunes. Il faut qu'on garde... Alors, il y a d'abord l'apprentissage. Hein. Donc on regrette, mais je pense que c'est encore en discussion, on regrette le seuil des 250 salariés qui a été proposé par le gouvernement, c'est-à-dire que, en deux mots, au-dessus de 250 salariés, vous ne bénéficieriez d'aucun coup de pouce pour accélérer votre politique d'apprentissage. 250 salariés dans les services, c'est pas gros, hein. Ça veut dire qu'on élimine toutes les entreprises employeurs qui avaient, et c'était bien ces dernières années, relancé leur politique d'apprentissage, et on leur dit, il faut que vous atteigniez 5% d'apprentis dans des moments où toutes ces entreprises sont quand même impactées par la crise, sinon vous n'avez rien. Je trouve que le fait de pratiquer des seuils, je préférerais qu'on propose des progressions. Si vous prenez 10% d'apprentis en plus dans ces moments difficiles, vous aurez un coup de pouce éventuel sur le coût de l'apprentissage. Donc, parlons progression, parlons pas des seuils qui font des espèces d'arrêts ou d'ambitions que les entreprises s'étaient fixées. Donc ça, c'est la première chose. Sur l'emploi des jeunes, sinon, bien entendu, il y a l'aide à l'embauche. Hein. C'est aussi encore en discussion. Il y a un arbitrage entre... prime à l'embauche ou baisse des charges. Oui, il y a aussi, j'ai compris, des arbitrages avec les fameux impôts de production. Donc tout ça va se trancher, je pense, dans les mois qui viennent. C'est important aussi pour nous. Et évidemment, les entreprises de services souhaitent ne pas être oublié dans tous ces débats-là.
On a compris le message et donc vous appelez à une grande conférence nationale, peut-être pas tout de suite, mais en tous les cas bientôt, pour mettre en avant vos priorités. Merci beaucoup, Damien Verdier, d'avoir été ici dans les studios de BFM Business, donc le nouveau président du groupement des professions de services. Dans un instant, lui, il a été patron d'une entreprise publique pendant des années. C'est Guillaume Pépi, l'ancien patron de la SNCF, qui est aujourd'hui président d'Initiative France. Et bien, il est le premier réseau associatif qui promeut l'entrepreneuriat. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Guillaume Pépi, l'ancien patron de la SNCF. Aujourd'hui, il vient de prendre les rênes d'Initiative France, ce premier réseau associatif qui accompagne et qui finance des gens qui ont parfois du mal à vouloir créer leur entreprise. Guillaume Pépi, merci d'être là. Merci d'être dans les studios de BFM Business. Il y a beaucoup de questions à voir avec vous. D'abord, première question, c'est presque un peu de la provoque. Quand on a dirigé une grande entreprise publique comme la SNCF, vous avez passé en tout combien de temps en tout à la SNCF?
12 ans comme PDG,
oui,
et puis avant, ben, au total, 25 ans.
25 ans, voilà, je savais que c'était 12 ans, parce que c'était 2008-2019, mais là, le 25 ans. Là, c'est associatif, c'est des toutes petites boîtes, c'est des cafés, c'est une épicerie, etc. Le choc, il est gigantesque, non, le choc culturel?
Oui, absolument. Mais en fait, j'avais envie d'une nouvelle vie professionnelle et j'ai envie qu'elle soit consacrée à l'entreprise, mais aussi aux petites entreprises, pas que les grosses. Évidemment, j'ai la chance d'être administrateur chez Lagardère, mais oui, c'est une grosse entreprise.
Qui doit vous rapporter plus que de l'initiative.
Ben, c'est bénévole.
C'est associatif, c'est bénévole. Voilà.
Mais là, si vous voulez, le défi, moi, qui aujourd'hui me motive, c'est que la crise va être très très dure, elle est déjà très dure. Il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui vont se retrouver sur le marché du travail, soit des jeunes, soit des gens qui sont dans des plans de départ volontaire. Et la question, c'est est-ce qu'il y a suffisamment d'offres salariées pour tout le monde? La réponse est non. La crise va être très difficile. Et par conséquent, l'idée, c'est tout simplement que des gens se posent la question, est-ce qu'au fond, je ne serais pas mieux si j'envisageais de créer mon propre emploi? Parce que j'ai un projet, parce que j'ai une idée et je cherche à la mettre en œuvre. Et ce qui est génial en France, c'est qu'il y a des dispositifs qui permettent, et pour l'argent et pour l'accompagnement, de trouver une solution.
On va y revenir largement, évidemment, parce que c'est très intéressant de voir cette démarche. C'est pour ça que Telou Schweitzer avant, vous ici, on vous demande et je vous demande de venir pour en parler, parce que c'est quelque chose qu'il faut promouvoir, surtout qu'avec le chômage, ça peut être une solution pour les gens. D'abord, un mot quand même sur ce remaniement. J'imagine, vous connaissant, que vous avez regardé de près ce qui se passait. Ça vous inspire quoi? Vous dites, il ne reste plus 15 mois à faire des choses. Donc,
Gros boulot. Il y a à la fois la réponse à la crise, d'où la nomination de Bruno Le Maire comme ministre de la Relance. Ça, c'est vraiment un signal, un symbole que je trouve important. Et puis l'autre, c'est la transition écologique. On en parle, mais personne n'a l'impression qu'on va assez vite ou qu'on prend les vraies décisions. Et c'est vrai que Barbara Pompili, que tout le monde connaît un petit peu, c'est une femme qui a présidé la commission à l'Assemblée nationale qui travaille ces sujets. Donc il y a beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de pression sur elle.
Oui, on se souvient, Barbara Pompili était très proche de Pascal Canfin. Elle, déjà, on avait hésité, le président Hollande avait hésité entre elle ou Pascal Canfin, donc ça, elle connaît très bien ces sujets-là. Cela dit, est-ce qu'elle est numéro 3 du gouvernement? Il y a un affichage, mais la transition écologique, vous êtes bien placé pour le savoir, parce que la SNCF, évidemment, ça, c'est très très important, hein, mais aussi dans tous les secteurs de transport. Est-ce que c'est l'affichage est là, mais est-ce que c'est suffisant? L'enjeu est colossal, non?
Oui, l'enjeu est colossal, mais je crois qu'il ne faut pas compter que sur l'État. L'État peut faire des lois, il peut créer des organismes, il peut, etc. Mais c'est aussi une question culturelle et c'est une question de chacun d'entre nous. C'est vrai, je prends moi l'exemple de mon ancien métier. Si on continue à regarder les uns ou les autres les possibilités avec les compagnies low cost d'aller à 1500 km le vendredi soir pour revenir le dimanche soir pour aller passer un week-end loin de chez soi par avion, il faut oublier de réduire les émissions de CO2 du transport aérien. Donc, il y a aussi un changement de comportement. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on voit de plus en plus de jeunes et de jeunes entrepreneurs qui se disent la transition écologique, c'est pas seulement des mesures réglementaires, c'est aussi des bonnes idées à mettre en œuvre. J'en prends une. Le circuit court localement. Quand vous avez, pendant la crise, des tas de gens qui se mettent à créer leur boîte, c'est des services du Covid, en quelque sorte, pour aller chercher des légumes, des fleurs, des produits localement, et les apporter au domicile des gens qui n'ont pas toujours envie de se déplacer. Ben ça peut constituer une TPE, demain une très petite entreprise qui est viable. Parce que le changement des mentalités, c'est qu'au fond, on a quand même plutôt envie de consommer des choses qui ont été produites pas loin, plutôt que des choses qui ont été acheminées par avion de Thaïlande ou des États-Unis.
C'est sûr, juste encore une question. Le train sort quand même le grand vainqueur de cette transition écologique, non, par rapport à l'aviation, lorsqu'on voit que Hop ne peut plus faire des vols domestiques, lorsque c'est à moins de deux heures. 2h30.
Ouais, ah faut oui, pas mais, opposer
bah
les
si,
choses.
Il a mais... été opposé par Bruno Le Maire, notamment.
Ouais. Non, ouais. Faut pas opposer les choses. Moi, j'ai passé 25 ans dans le transport collectif écologique, qui est le train. Et j'adore le train. Mais j'aime aussi l'avion. Simplement, c'est pas le même usage. Quand je vais en France ou quand je vais proche en Europe, demain, je vais à Berne, etc., ben, je vais en train. Bon, oui, ça prend 4 heures. Mais les émissions de CO2 sont 10 à 15 fois inférieures à celles de l'avion. Maintenant, il ne faut pas s'interdire un jour d'aller visiter le Japon ou d'aller rencontrer des amis en Amérique. Bon, simplement, voilà, chaque mode a sa zone, on va dire, normale de pertinence. Et il faut que le critère écologique entre dans la tête de chacune et chacun d'entre nous, c'est-à-dire fasse partie du choix. Il y a le prix, il y a l'horaire. Et puis après, il faut se dire, bon, attends, je ne vais quand même pas prendre l'avion là où je peux prendre le train.
Oui, d'accord. Donc ça, c'est effectivement la transition écologique va sans doute un peu redonner ses heures de gloire au train.
Et aux très petites entreprises.
Et aux très petites entreprises. Alors, Initiative France, d'abord, vous nous expliquez pourquoi vous aviez envie de changer un petit peu de vie. Pourquoi vous avez décidé de prendre les rênes d'Initiative France? On vous l'a proposé, d'accord?
Oui, d'abord, c'est tout simple.
Et vous mettez votre notoriété au sein de ce réseau.
Oui, j'avais fait 12 années comme PDG de la SNCF et je pensais que demander un mandat de plus pour faire 17 ans, ça aurait été vraiment, comme on dit en politique, le mandat de trop. Donc, je me suis dit, la SNCF, elle a droit aussi à une nouvelle équipe, à une, voilà, à des gens neufs.
Extrêmement différente. Neuf,
Et je me suis dit, moi j'ai envie de consacrer une nouvelle, on va dire, carrière professionnelle aux entreprises et particulièrement aux très petites entreprises. Parce que je pense qu'en France, il y a énormément d'inhibitions. Combien on rencontre de gens, vous, moi, tout le monde, qui se disent, ah, je créerais bien ma boîte. Simplement, la phrase qui suit, c'est un, j'ai pas les sous. Et deux, je vais me casser la figure parce que je suis pas...
C'est extrêmement compliqué en France.
Et ben voilà.
On est envahi par la technocratie, la bureaucratie et les papiers, quoi.
Vous l'avez dit. Oui. Sauf que là-dessus, il y a des réponses. Initiative France, c'est 215 associations partout en France. Et ces 215 associations, il y a 20 000 bénévoles qui sont là pour faire deux choses. D'abord, ils distribuent des prêts pour que l'argent soit pas un obstacle à la création d'entreprise. Et surtout, ces 20 000 bénévoles, ils viennent de partout, hein. Il y a des gens qui sont chefs d'entreprise. Il y a des gens qui sont retraités, mais ils couvrent à 360 degrés tous les besoins. Et donc, ils sont là pour vous accompagner dans la durée, pendant plusieurs années, pour que lorsque vous avez créé votre petite entreprise, quand vous avez un truc fiscal auquel vous comprenez rien, bah vous avez un parrain ou une marraine. Quand vous grattez la tête pour faire votre plan d'action commercial, puis vous vous dites, j'ai pas assez de réseau, de connexion autour de moi, bah, je vais voir l'association locale pour qu'elle m'aide à trouver des clients. Et puis, si j'ai un problème de trésorerie, j'arrive pas à m'en sortir, je vais voir aussi l'association. Voilà, c'est ça l'idée.
En même temps, vous êtes quelqu'un du public, donc là, c'est du privé. Donc,
un chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise. Vous savez,
un chef d'entreprise du public, vous êtes bien placé pour savoir que c'est plus compliqué qu'un chef d'entreprise
plus compliqué, mais
du privé.
Le principe, ce dont il faut convaincre chacune et chacun, c'est que, au fond, la création d'entreprise, c'est la plus belle des aventures qu'on puisse avoir professionnellement. Parce que c'est une idée qui vient de vous.
Qui eût cru que Guillaume Pépi prononce ces phrases?
Mais attendez, moi, à la SNCF, j'ai eu la chance d'en créer pas mal des entreprises. On a créé voyagesncf.com. On a contribué à créer du covoiturage, de l'autopartage. On n'a pas cessé d'en créer. Donc maintenant.
Et vous avez racheté des startups qui s'est devenu.
Et on a racheté des startups. Voilà. Donc c'est vraiment la plus belle aventure. La seule chose que Initiative France peut pas faire, c'est avoir l'idée à votre place. Si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas de projet, on ne pourra pas le faire à votre place. Mais quand il y a l'idée, il y a le projet. L'argent, j'ose le dire ici, ce n'est pas vraiment le problème. Et l'accompagnement, ce n'est pas vraiment le problème, c'est même la solution.
Oui, en même temps, vous regardez, parce qu'il y a une enquête que vous avez faite au sein d'Initiative France. Je m'en souviens, Louis Schweitzer était venu la porter ici même. Il y en a 57% qui ont suspendu leur activité pendant la crise et 55% qui ont connu un chiffre d'affaires nul au mois d'avril, comme tout le monde, je veux dire. Sauf que comme c'est petit... ils ont mis la clé sous la porte. Alors, donc on voit bien la difficulté de relancer quand même
cette
initiative.
Le choc du Covid a été énorme, monstrueux, mais je dirais un peu comme les gamins, touché mais pas coulé. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, tous ces chefs d'entreprise, de très petites entreprises, ils ont eu un chiffre d'affaires nul et ils se sont même pas rémunérés d'un euro pendant la période. Mais ils sont incroyablement optimistes, les deux tiers. Ils considèrent qu'ils ont été accompagnés pendant la période de la crise. Et merci à l'État, parce que les fameux 1 500 euros du fonds de solidarité, ça a marché. Merci aux régions.
Y compris pour les entreprises créées par les cafés, les petites boutiques.
Et là où c'est remarquable, c'est que les fameux 1 500 euros, ils n'ont pas été versés 3 mois après, ils ont été versés généralement entre 10 et 15 jours après la demande. Merci aux régions qui ont mis en place des prêts d'urgence. Et par exemple, nous, on a travaillé avec la région Nouvelle-Aquitaine et on a dû embaucher, trouver 30 bénévoles supplémentaires pour distribuer aux gens qui le justifiaient les fameux prêts d'urgence de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc les régions ont été super réactives et maintenant, ces fameuses toutes petites entreprises, au fond, elles disent on est décidé à continuer, on ne va pas mettre la clé sous la porte, mais on a besoin de deux choses. On a d'abord besoin de retrouver des clients. Donc vive la consommation, il faut que les gens cessent d'épargner trop et que les gens dépensent un peu leurs sous. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a vraiment besoin qu'on nous accompagne pendant la période parce qu'on va marcher un peu sur le fil du rasoir. Et donc l'accompagnement par des chefs d'entreprise un peu chevronnés, du temps passé avec nous pour nous rassurer, pour nous indiquer ce qu'il faut faire, pour nous indiquer les démarches, ça va nous aider.
Tiens, Alain Griset, président de l'UDP, je ne sais pas si vous le connaissez.
Non, mais je vais
les artisans, avec lui qui était encore là il y a quelques jours, qui devient ministre. Donc, c'est quelqu'un, un partenaire social, un syndicaliste patronal, qui devient ministre, enfin ministre délégué. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, que du bien, je ne le connais pas, je vais aller me présenter. Mais si on veut qu'en France, on casse les inhibitions et l'autocensure à la création de toutes petites entreprises, il faut que tout le monde fasse ensemble. On ne peut pas faire seul. Initiative France, on trouve les renseignements sur le site initiativefrance.fr, c'est 215 associations. Mais on ne peut rien faire seul. Il faut avoir les régions, il faut avoir les banques. Ouais. Parce que la caractéristique du système, c'est qu'Initiative France vous donne un prêt d'honneur, environ 10 000 euros, tout de suite. Et avec ce prêt d'honneur, vous allez voir votre banque et votre banque automatiquement peut vous prêter de l'ordre de 100 000 euros pour votre projet d'entreprise.
Automatiquement ?
Automatiquement.
Ça veut dire qu'une fois qu'on a, vous avez un accord ?
L'examen de passage, on ne le fait pas deux fois, on le fait une fois.
D'accord.
L'examen, il se fait.
C'est vous qui le faites ?
C'est les bénévoles.
Initiative France.
Les bénévoles qui, dans chacune des régions, se réunissent, regardent le projet, est-ce que ça tient la route ? Est-ce que la personne est bien motivée ? Est-ce que le marché va répondre ? Et après, on se jette à l'eau. Le truc génial, c'est que 3 ans après, il y a 92% des entreprises qui ont été créées avec notre aide qui sont encore en activité.
Et 8% même là après cette crise,
C'est un très beau chiffre.
Oui. Oui, non, c'est sûr que c'est justement Alain Griset.
Et les banques et les assurances jouent le jeu.
Ouais.
On dit souvent en France, non mais les banques elles jouent pas le jeu. Sur la création de très petites entreprises, la BPI qui est une banque formidable joue le jeu et les grands réseaux de banques nous font confiance. Quand quelqu'un a obtenu un prêt d'honneur, à ce moment-là la banque lui fait un prêt à son entreprise en moyenne de 100 000 euros.
Donc le taux de faillite est de combien ?
8%.
Oui.
C'est très peu.
Oui, c'est
en même temps, c'est bien, pardon de le dire comme ça, mais il ne faut pas que tout le monde réussisse, parce que sinon, ça voudrait dire que c'est artificiel. Voilà, il y a des projets qui ne marchent pas. Oui, c'est la vie économique.
Oui, c'est ce que disait donc Alain Griset, donc, il y a quelques jours, ce même micro, qui disait c'est le premier. C'est le premier plan social de France, hein, les artisans et les petites entreprises.
Mais en même temps, il y a des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que la création de très petites entreprises, d'abord, c'est une des solutions pour ne pas déprimer quand on perd son job. Ça redonne de la confiance. Et moi, j'ai un exemple en tête de personne qui est comptable, par exemple, qui a un peu plus de 50 ans. Et quand on est comptable aujourd'hui de plus de 50 ans, ce n'est pas super facile de retrouver un poste de comptable dans une autre entreprise parce que tout ça est automatisé, etc. Intelligence artificielle. Bon. Cette personne, on l'a aidé et on l'a aidé à reprendre un commerce qui était fermé. Étant donné que cette personne est comptable, on lui fait une confiance sur le pilotage économique de son commerce. Mais ce qui est formidable, c'est que la personne tente l'opération dans un centre-ville où il y a un peu moins de monde qu'avant, de créer son entreprise et de reprendre un commerce. Voilà un bon exemple.
Justement, on voit bien qu'il y a un problème dans les centres-villes en France. Il y a cette action qui s'appelait Action Cœur de Ville, qui avait été conduite par Julien Normandie, qui était le ministre du Logement. Maintenant, il devient ministre de l'Agriculture. C'est une autre problématique. C'est Emmanuel Wargon qui prend sa place. Cœur de Ville, c'était de booster les centres-villes. En même temps, avec la crise là, la Covid, on voit le nombre de baux qui sont à céder.
C'est vrai. Mais en même temps, on voit aussi que plus personne n'a envie de faire 15, 20 kilomètres dans les embouteillages avec sa voiture pour aller acheter des choses qu'on pourrait acheter finalement plus près de ses soins.
Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que j'imagine quand même ça change. Vous venez de prendre la présidence, Guillaume Pepy, mais ça va changer un peu votre mode de fonctionnement parce que les problématiques sont plus identiques. Vous l'avez dit, là, il y a les circuits locaux, donc c'est des opportunités.
Ce qui est formidable dans Initiative France, c'est que c'est un réseau local avec de l'expertise nationale. Le réseau local, ça veut dire que, en fait, c'est les 215 associations avec tous ces bénévoles économiques, en quelque sorte. Et ce qui est formidable avec ces bénévoles, qui sont des hommes et des femmes qui ont eux-mêmes leur propre boîte, donc ils prennent sur leur temps.
Profitez-en pour faire un appel à ceux qui nous écoutent. Hein. Oui, il y en a beaucoup qui sont justement soit des cadres, soit des dirigeants d'entreprise.
Oui, on a besoin de bénévoles. Le réseau s'appelle Initiative-France et on a besoin notamment de bénévoles qui ont des compétences dans la technologie ou bien dans le digital, parce que c'est vrai qu'il faut qu'aujourd'hui on muscle nos compétences dans ce domaine, parce que plus personne ne va créer une entreprise sans avoir une activité digitale aussi. Et donc, là-dessus, on a besoin de bénévoles supplémentaires.
Bah oui, en plus, c'est vraiment le créneau indispensable. Oui.
Et tout ça aussi, ça rassure, parce qu'au fond, il y a un esprit d'entreprise dans cette association, et en même temps, c'est un esprit d'entreprise solidaire, c'est-à-dire qui agit au service de l'intérêt général et des autres. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de m'engager.
Qu'est-ce que peut faire le public? Tiens, vous qui venez du public, qui connaissez bien.
Mais arrêtez de m'embêter avec le public.
Mais si, mais parce que je trouve ça intéressant.
On crée des boîtes dans le public aussi.
Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est on oppose toujours le public et le privé. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi?
Je pense qu'on a tort.
Oui, non, mais bien, je pense qu'on a tort. Voilà. Et donc, vous, c'est de votre expérience, je ne vous mets pas en accusation, Guillaume Pepy, je dis juste qu'est-ce qu'on pourrait faire? D'abord, pour faire comprendre à des gens qui travaillent que dans le public, je sais pas, à des cheminots, mais à d'autres, que même à des soignants, regardez l'opposition public-privé, même dans le théâtre, l'opposition public-privé.
Parce qu'en France,
qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des ponts?
France, on adore opposer les uns et les autres, c'est un sport national. Hein. D'abord, on regarde l'assiette des autres, qui est toujours mieux garnie, et puis, on adore opposer idéologiquement les deux mondes. Moi, j'ai fait effectivement une partie de ma vie de manager et de dirigeant dans le public, mais aujourd'hui, c'est clair que les emplois, ils ne viendront pas du secteur public. C'est pas l'État qui peut tout en ce moment. Je pense au contraire qu'il y a des tas d'idées sur tout le territoire qui ne demandent qu'à être transformées en de futures entreprises. Et il y a un truc qui m'a frappé, je discutais avec l'association qui est en Île-de-France, au sud de l'Île-de-France. Ils avaient créé l'année dernière environ 150 entreprises, au cours de l'année. Et là, pendant la crise, juste après la fin du confinement, eh bien, ils ont eu, sur des demandes de prêts d'urgence, qui sont financées par Valérie Pécresse à la région, ils ont eu 50 dossiers par semaine. C'est-à-dire qu'en sortant de la crise du Covid, des tas de gens se sont dit « Allez, certes, c'est dramatique, mais c'est aussi une opportunité. » Parce qu'il y a des nouveaux business à créer, il y a des nouveaux services à créer, et allons-y, on sera parmi les premiers.
Oui, et puis c'est là où vous voilà maintenant, avec votre casquette initiative, vous pouvez faire des choses. Mais il va falloir changer un petit peu de logiciel aussi, parce que la demande, elle va être très différente. Même ce que vous disiez dans le numérique, très intéressant, mais effectivement, si vous n'avez pas de parrain dans le numérique, il faut absolument vous en trouviez. Il faut appeler France Digital et Frédéric Mazzella pour qu'il y ait trouvé des...
Oui, vous ne faites pas si bien dire. Je pense qu'il faudrait que Frédéric Mazzella, je vais l'appeler, nous aide, parce qu'il a énormément de compétences et de savoir-faire dont ont besoin ceux qui ont envie de créer une entreprise.
L'autre grand, on parle de l'autre, mais enfin c'est vrai que c'est un peu les deux grandes directions qui doivent transformer notre économie, la transformation écologique. Là aussi, il y a des tas d'opportunités pour des petites entreprises. Alors, on a parlé des circuits locaux, des circuits courts, mais pas que.
Oui. Le grand sujet, c'est le recyclage quand même. Oui. Et le recyclage, il y a certes des gigantesques usines et installations industrielles, mais il y a aussi la collecte, qui est quelque chose de très compliqué et qui est assuré, on va dire, pas au mieux en France. Il faut qu'on se mette tous dans la tête qu'il y a 80 ou 90% de ce qu'on jette qui est réutilisable par d'autres. Et on a énormément, nous, de personnes qui sont tentées par l'aventure de récupérer un certain nombre d'objets que chez vous jetez et qui peuvent recycler, être réutilisés. Et c'est Emmaüs, bien sûr, mais ce n'est pas que Emmaüs. Donc, je pense que là aussi, il y a un champ de création d'entreprise.
Toute dernière question, il nous reste 3 minutes, Guillaume Pépi. Qu'est-ce que vous êtes allé faire chez Lagardère comme administrateur? On s'est demandé, en disant pourquoi il apporte sa caution à un moment quand même extrêmement difficile pour le groupe, où on ne sait pas, on a un peu manque de visibilité, on va dire ça.
Lagardère, c'est typiquement une entreprise qui a une image qui n'est pas la réalité. La réalité de Lagardère, pardon, je vais être un peu cash.
Mais allez-y, et moi je le serai, mais allez-y.
Oui, c'est le 3e éditeur de livres au monde.
Oui, bien sûr.
Ça s'appelle Hachette.
Oui.
C'est dirigé par Arnaud Nourry, le 3e au monde. Et ça a envie d'être le 2e, et peut-être un jour, le 1er éditeur au monde. Et ce métier-là, c'est un métier qui est fondamental dans un pays, parce que c'est la culture, c'est l'éducation, c'est la transmission des compétences. Et le 2e métier, c'est un métier qui économiquement est très important pour l'économie française. C'est tous les magasins qu'il y a dans les aéroports, qu'il y a dans les gares, qu'il y a dans les centres commerciaux.
Oui, qu'on connaît peu, mais qui est un super business.
Mais qui est énorme parce que c'est ça qui vend l'ensemble des produits de luxe français dans le monde. Et on sait la part de l'économie française qui est dans le luxe.
Oui.
Et donc notre objet. Et là aussi,
so what, on veut dire, and so what.
Eh bien, il faut pousser.
Parce que Lagardère était actionnaire d'Airbus, qui était le premier avionnaire
mondial. Aujourd'hui.
Le deuxième avionnaire mondial, maintenant qui est le premier.
Voilà, bon, mais aujourd'hui, il faut pousser cette entreprise à réussir. Moi, je suis que président du comité stratégique. Donc, j'essaye d'aider cette entreprise à réussir, c'est-à-dire à faire les bons investissements. On est plusieurs, hein. Moi, je suis pas seul. On a un conseil autour. Ouais. On essaye de faire les bons investissements. On essaye de trouver les bons financements pour qu'on puisse se dire, en France, dans 3 ans, dans 5 ans, par exemple, on a le 2e ou le 1er éditeur au monde, ou on a le 2e ou 3e entreprise de travel retail. C'est ça l'intérêt.
Ouais,
et derrière, c'est énormément de milliers d'emplois, et c'est des emplois de demain.
Oui, en même temps, vous voyez bien qu'il y a des gros, il y a les plus grands prédateurs de la place de Paris qui sont invités d'une manière ou d'une autre, que ça soit Vincent Bolloré, Bernard Arnault, chacun qui lorgne sur une partie du groupe. Il y a le fonds Qatari aussi,
c'est
qui n'est pas complètement.
C'est un signe d'intérêt pour ce groupe d'une certaine façon. Ça
oui, mais non, une séparation. J'ose pas dire un mot plus fort, mais peut-être dissociation du groupe.
Non, ça serait une énorme bêtise. Ça serait une énorme bêtise.
Vous y croyez pas?
Non, ça serait une énorme bêtise parce que dans ces métiers-là, la taille compte. Et aujourd'hui, la taille du groupe Lagardère, elle n'est même pas encore pas suffisante. Il faut que Lagardère fasse des acquisitions. Et Arnaud Lagardère, qui dirige le groupe, je sais qu'il y réfléchit, il propose des investissements. On est dans la période où une entreprise comme ça, à la fois, c'est difficile de se financer, mais en même temps, c'est le moment d'investir.
Ça veut dire, et tout ce qui est presse, Paris Match, Europe 1, tout ça, sa vocation à rester?
Ça, c'est à lui de l'en décider.
Bien sûr.
Mais moi, mon opinion, c'est qu'il y a une petite partie du cœur de ce groupe qui est dans la presse et dans les médias. Je pense qu'il a peut-être envie d'en garder une partie. Et en même temps, il faut financer la croissance de ce groupe.
Oui.
Voilà.
Mais ce qui
est rassurant en France, quand même.
Sans polémique, d'où ma question.
Oui. Donc, je ne peux pas vous répondre, parce que c'est lui qui décide et pas moi. Mais c'est important d'avoir en tête que Lagardère, c'est un nom un peu magique en France, hein, de l'industrie, vous l'avez dit, l'armement, l'avion, etc. C'est aujourd'hui un nom qui est associé à la culture et au voyage, et donc quelque part, ça fait partie du patrimoine français.
Et donc ça doit le rester, on a compris le message. Merci beaucoup.
Merci à
Guillaume Pépi, donc Initiative France, si vous voulez créer votre entreprise, c'est le moment, vous avez compris, 10 000 euros de prêt d'honneur, derrière, automatiquement, on vous donne 100 000 euros, ça vaut le coup dans tous les cas.
Vous les prêtez, hein, vous les
prêtez. On vous les prête. Oh, bah, par le temps qui court. Oui, on remarquait les PGE, on peut se poser la question. Merci Guillaume Pépi d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin. L'orage, on se retrouve demain, bien sûr. D'ici là, très bonne journée.